Alors, premier dossier ce matin, Hubert, donc, qui a décidé de rester après avoir fait chanter le gouvernement.
Oui, exactement, tu as utilisé le bon terme, c'est fait chanter le gouvernement.
Un peu.
Les gens disaient c'est du bluff, c'est pas du bluff, c'est un chantage éhonté. Le problème, c'est que je pense qu'ils ont gagné avec leur chantage. Moi, je mets deux choses. La nomination du ministre, c'est arrivé, c'est un hasard. Il n'y a pas eu de remaniement ministériel parce que le ministre
aurait été...
Bon, soyons clairs. Mais en même temps, le ministre Fortin semble avoir une attitude différente de celle de M. Lessard. Ils ont gagné au sens où ils ont considérablement amoindri les exigences. On sait que pour ceux qui sont déjà des chauffeurs Uber, ils vont avoir 2 ans pour compléter leur formation. Et puis, ils ont une grande période aussi pour s'acquitter là, de l'évaluation judiciaire de leur dossier. Donc, les mesures vont s'appliquer à partir de la mi-octobre, je pense, pour les nouveaux chauffeurs. On comprend donc que, dans le fond, là, Uber a gardé son marché. Il a gardé la majorité des chauffeurs qui sont déjà à son emploi. Pour les autres, il va y avoir une formation de 35 heures. Ça, ils n'y avaient pas le choix. C'était une condition sur laquelle le gouvernement ne pouvait pas revenir sans perdre la face. Puis, tout ça s'inscrit dans le contexte où le protocole qui avait été conclu, qui permet à Uber d'être sur le territoire, est prolongé d'un an. Puis, quand il y a eu l'entrevue avec toi, Paul, le ministre Fortin, ça m'a frappé. Il parlait des exigences très variables. Il disait, à Lévis, par exemple, c'est 7 heures de formation. À Québec, je pense, c'est un nombre comme 120 heures, si mon souvenir est bon, je ne suis pas sûr, là. Mais je sais que c'était beaucoup plus à Québec.
Il y a des grandes différences.
Des grandes différences. Donc, on comprend que... Et puis là, il disait, il va falloir harmoniser, donc ça veut dire probablement uniformiser la type, le nombre d'heures de formation un peu partout à travers le Québec. On comprend donc que dans un an, à la fin du protocole, Uber va avoir négocié avec le gouvernement, puis qu'on va arriver à quelque chose qui les satisfait sans faire perdre la face au gouvernement. Donc, moi, je considère que c'est une opération réussie.
Mario.
Ouais, c'est-à-dire que... Je sais pas si Uber a vraiment eu à un moment ou à un autre l'intention de quitter. Je comprends que le 35 heures de formation dans leur modèle, c'est un vrai problème. C'est que ça paraît pas énorme, là, pour un métier en général. Si on te dit tu vas avoir un métier avec 35 heures de formation, sauf que dans ce cas-ci, il y a quand même beaucoup de gens qui font ça comme un revenu d'appoint. Puis tu sais, dans le roulement Uber, parce qu'il y a du roulement, il y a ça aussi, là, tu sais, des gens qui entrent, qui sortent, des étudiants d'université qui ont un véhicule, puis tout ça. Puis à un moment donné, comme revenu d'appoint ou comme ils vont faire un peu d'Uber. Alors, de penser qu'il faudrait qu'ils aient fait la totalité de leur formation, là, l'idée qu'ils ne pourraient pas commencer s'ils n'ont pas fait la totalité de leur formation, ça, c'était un vrai problème. Sauf que là, je pense qu'on a plus de souplesse, puis on va voir ce que ça va donner à l'usage. Mais bon, c'était une stratégie quand même assez risquée, là, celle d'Uber pour l'opinion publique, là, que celle de menacer de quitter, parce que quelle que soit la réalité, qu'ils aient eu l'intention sincère de quitter ou pas, disons que c'est la dernière fois qu'ils peuvent le faire, là. On s'entend que la prochaine fois qu'Uber nous fait une conférence de presse sur le fait qu'il pourrait quitter avec une date et tout ça, on va se rouler à terre de rire, là. Je veux dire, on n'écoutera plus, là.
Ils sont assez imaginatifs. T'sais, dans d'autres pays, ils contestent. Bon, tantôt, on disait qu'à Londres, ils ont été exclus. Ils contestent l'exclusion. C'est des délinquants. Ils ont un comportement délinquant. Le problème, c'est que le service, tout le monde se dit, ouais, ce service-là est drôlement pratique. Il y a du bon sens. Comment on pourrait l'encadrer pour que ce soit pas une concurrence déloyale pour ce qui existe déjà? Puis on sait les problèmes qui se pose, là, au niveau de la valeur des permis. Le fait que ces permis-là, maintenant, sont pour la majorité des chauffeurs extrêmement un plan de retraite, en quelque sorte, le seul avoir qu'ils possèdent. On sait que le milieu du taxi, c'est une communauté, beaucoup une communauté qui est fragile, qui s'est intégrée grâce à ça. Donc, ici, c'est le contexte. Mais un peu partout sur la planète, Uber est une compagnie qui a des comportements qui frisent la délinquance ou la provocation ou l'impertinence. Et là, c'est plus ça qui est touché, je trouve, que le type de service qu'ils offrent. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on modernise le type de service, puis on est entré là-dedans, et on le voit dans tous les domaines. Mais il y a quand même un comportement à avoir, me semble-t-il.
Ouais. Mais le nouveau ministre, là, il y a quelque chose de réel là, là-dessus, par exemple, sur le fait qu'il... Je dirais qu'il y a une vision plus moderne des choses, là. Il est plus jeune aussi, mais une vision plus moderne des choses, parce que il a parlé d'Uber, mais il a surtout parlé de l'ensemble des plateformes. Il y a plusieurs autres plateformes du même genre qui risquent d'arriver, qui font permettant à la fois soit du covoiturage, etc. Et puis ça, c'est on peut pas arrêter ça. Puis il faut vraiment mettre des règles du jeu qui permettent à tout le monde d'avoir, tu sais, comme on dit, une équité dans le fonctionnement. Puis je pense que le nouveau ministre est peut-être un peu plus conscient, un peu plus branché sur les réalités de ce qui s'en vient. Sur Uber, ça vaut ce que ça vaut, là, mais j'avais quand même reçu des infos un peu comme le stool FM que t'as, Paul,
ouais.
Mais de gens qui disaient, quelqu'un qui disait habiter pas loin de leur bureau, là, et qui m'a écrit quelques jours avant la date finale de l'ultimatum où il menaçait de quitter. Puis il voyait des gens entrer, sortir, remplir des formulaires, là, tu sais, pour devenir nouveau chauffeur. Tu sais, si tu penses fermer ton restaurant dans 3 jours, tu passes-tu des entrevues à des cuisiniers?
Non, mais c'est parce que Uber, là, s'est fait sortir plus souvent d'une ville que l'entreprise a pris la décision de quitter par elle-même, là. Mm. Tu sais, c'est pas mal ça qui est arrivé, mais moi, personnellement, c'est pas l'application, c'est pas la technologie. Moi, c'est l'attitude.
C'est ça.
Et pas juste à Montréal, là. L'attitude, par exemple, de Uber, qui a fini par avouer avoir, par un système informatique, caché des informations aux autorités sur les revenus, par exemple, sur les taxes. On a découvert à un moment donné qu'il y avait une fonction qui faisait en sorte qu'il suivait le client, même quand le client avait quitté le véhicule Uber. Tu sais, un paquet de gogos, des attitudes de confrontation avec les chauffeurs. Il y a une bizarre de culture d'entreprise chez Uber.
Puis là, t'as l'air d'être en train de dire qu'ils auraient fait le plein de chauffeurs avant la date limite.
Non, pas le plein. C'est ça, exactement. C'est comme si la semaine d'avant, ouais, business as usual, c'est le bon mot. Ils continuent à fonctionner normalement. Ouais. Ce qui est bizarre, parce que si tu sais pas ce que l'avenir te réserve, c'était avant le remaniement. Donc, si tu sais pas ce que l'avenir te réserve, puis tu penses sérieusement quitter le Québec, est-ce que tu dépenses de l'énergie à recruter des nouveaux chauffeurs pour leur faire signer les documents et tout ça? Ça démontre. En fait, c'est juste une petite preuve, là, moyennant que ce soit vrai, je pense que ça l'est. C'est juste une petite preuve qu'il n'y a pas eu, disons, un gros mouvement à l'interne, là, voulant qu'ils quittent vraiment, là, de panique. Là.
En tout cas, la dernière question que je me pose, c'est comment la concurrence va s'installer? Parce qu'il y a d'autres compagnies qui offrent ce type de service-là, que je connais pas, là, mais on voyait des noms. Je me suis dit, là, Uber est installé.
General Motors prépare, semble-t-il, ouais, une plateforme du même genre.
Alors ça va être, me semble-t-il, intéressant à surveiller. Puis aussi, qu'en est-il de la situation de ceux qui font du taxi à l'ancienne, là? Qu'est-ce qui arrive avec la valeur de leur permis? Et puis tout ça. Est-ce que ça continue à se dégrader?
Non. Ce qu'on entend, c'est que la valeur des permis, c'est au moins stabilisé. Même, j'ai entendu repris un peu, mais en tout cas, disons stabilisé pour l'instant. Mais sur la question que Uber sont des délinquants, juste un commentaire. Je pense qu'il y a deux affaires là-dedans, deux ingrédients. Il y a une partie où, oui, là, c'est une multinationale, nouveau genre, là, qui n'hésite pas à prendre tous les moyens et tout ça. T'sais, avec, il y a un côté là-dessus, franchement, délinquant. Il y a un autre côté où les gouvernements sont tellement en retard sur ces nouveaux modèles-là. Puis là, j'inclus Uber, mais plein d'autres, là. Puis les Airbnb, tu sais, dans leur façon de taxer, leur façon de réglementer, les gouvernements sont tellement en retard, tellement déconnectés, que ces entreprises-là deviennent un peu délinquantes de force aussi, là, parce que sinon, elles n'existeront pas, parce qu'il n'y a rien dans ce qui a été prévu dans les réglementations gouvernementales qui imaginait une telle technologie, là.
On s'arrête là-dessus. Au retour, on va parler de Tesla, qui a congédié des employés, des centaines d'employés, après l'évaluation de performance annuelle. Allons-y avec le tour de 13.